Enfin, c'est plutôt une bonne idée.
Après, ça dépend. Enfin,
ça dépend au niveau humain où est-ce qu'il veut mettre les personnes.
C'est génial.
Les élections municipales approchent et Radio Campus Angers va vivre au rythme de la campagne.
Je vous relance la question.
Du 24 au 28 février et du 10 au 14 mars, chaque candidat à la mairie sera l'invité du sous-marin de 19h à 20h.
C'est bien beau de dire qu'on embauche les jeunes.
Valentin et Pierre-Antoine sont allés demander aux étudiants ce qu'ils pensaient de cette proposition.
Ça va être difficile à appliquer.
Épluchage de programme, micro-trottoir, réponse aux questions des auditeurs. Nous passons en mode électoral.
Aïe, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu majoritairement consacrée aux élections municipales. Notre sous-marin est encore mieux que s'il était jaune. Vous pouvez l'entendre lorsque l'on en branche les hydrophones, c'est-à-dire tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h et exceptionnellement cette semaine, mercredi, donc demain à la même heure. Je suis Tiffaine et à mes côtés aujourd'hui, mardi, voici Pierre-Antoine. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
On te retrouvera en fin de sous-marin pour ta chronique politique. Et comme chaque jour, vous retrouverez l'agenda et la bulle sonore à la fin de ce sous-marin. Tout le monde est à son poste, c'est parti. On aurait aimé entendre un torpillage en règle de Nanette, mais Nanette est à faune et à la radio, c'est pas top. Tant pis, on passe donc au cœur de ce sous-marin, l'interview. Après avoir reçu Frédéric Béatz, Christophe Béchu, Laurent Géraud, Jean-Luc Rotureau et Gaëtan Diran, nous continuons notre spécial municipal avec une femme, Marie-Josée Falligan. Suivront Hubert Lardeux, Nathalie Sévaux et Martin Niveau. À la fin de cette semaine, nous aurons donc accueilli les 9 candidats aux élections municipales. Ce matin donc, nous avons reçu Marie-Josée Falligan de Lutte Ouvrière dans nos studios et nous l'avons interviewée avec Rémi et Pierre-Antoine. Elle se dit trotskiste, communiste, révolutionnaire et fière de l'être. Elle est infirmière au bloc opératoire du CHU d'Angers. Elle a déjà été candidate en 2008, mais sur la liste d'alliance avec le Parti communiste et en deuxième place. Cette fois-ci, elle est en tête de la liste de Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Bonjour Marie-Josée Falligan.
Bonjour à vous.
Vous admirez Arlette Laguiller, figure historique de Lutte Ouvrière. Vous vous considérez comme la Arlette Laguiller angevine?
Je l'admire, oui, j'admire ce qu'elle défend et puis j'admire aussi le fait qu'elle ait été la première femme à être candidate aux élections présidentielles et à faire un peu la place aux femmes dans ce monde politique qui est très masculin.
Vous reconnaissez?
Alors, est-ce que je suis l'art d'être locale? J'en serais fière. Hein, bon, on est effectivement un certain nombre de femmes à Lutte Ouvrière, donc je fais partie d'une des militantes de ce groupe-là. Donc Arlette, oui, j'en serais fière, mais pas forcément. Je suis pas forcément aussi connue ni aussi médiatique qu'Arlette. Et voilà.
Pourquoi Lutte Ouvrière et pas le Parti communiste français ou la Ligue communiste révolutionnaire?
Alors, une des raisons pour lesquelles on s'est présenté seul à ces élections municipales, c'est que, en ce qui concerne le Parti communiste, qui a fait d'ailleurs alliance sur un certain nombre de listes avec le Parti socialiste, ou le NPA, ou le Parti de gauche, ils ont comme ambition dans ces élections de réformer la gauche, d'avoir une autre politique à proposer à gauche. Nous, en ce qui nous concerne, on pense réellement qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer du Parti socialiste, qui n'a plus de socialiste que le nom, et que effectivement, il faut qu'on se présente sur des idées claires et sur des objectifs à donner un peu à la classe ouvrière, et non pas cette confusion de dire « je critique le PS et finalement je me présente avec lui ».
Vous n'avez pas voulu faire front commun avec Martin Niveau ou Hubert Lardeux?
Non, pour ces raisons-là, Martin Niveau, en s'alliant avec le Front de Gauche, dont on ne sait pas vraiment s'ils sont ou dans la majorité présidentielle ou dans l'opposition, on avait, nous, l'intention d'envoyer un message clair aux électeurs.
Et avec Hubert Lardeux?
Alors Hubert Lardeux, effectivement, on défend un certain nombre d'idées communes, mais dans le fond, là, dans ce que j'en ai entendu, moi, dans son programme municipal, bon, il a quelques propositions locales, mais dans le fond, les mots d'ordre donnés aux travailleurs, à la classe ouvrière, sont pas aussi clairs que ça. Donc nous, on avait cette ambition d'être très clairs.
Et vous n'avez pas peur de disperser les voix d'extrême gauche?
Non, je pense qu'on défend notre drapeau. On pourrait en dire autant, d'ailleurs, des listes de droite. Pourquoi deux listes de droite? Pourquoi faire une liste, deux listes de M. Rotureau et M. Béatz? Pourquoi faire deux listes puisqu'ils défendent la même chose, finalement? Donc voilà, moi je défends mes idées, je porte un drapeau et on en est fiers.
Rémi?
Est-ce que vous êtes vraiment visible? Comment est-ce que vous comptez convaincre les Angevins?
Alors, les Angevins, comme vous dites, on les rencontre assez souvent, nous, toute l'année. Hein, on milite pas seulement pendant les élections. On est présent assez régulièrement devant les entreprises pour distribuer des tracts. Et on a des militants dans les entreprises qui défendent au quotidien nos idées. Alors oui, on se fait comprendre, puisque quand on a préparé notre liste, on est allé à la rencontre des Angevins en discutant plutôt dans les couches populaires, dans la classe ouvrière, etc. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que ce qu'on disait, c'était finalement leurs préoccupations quotidiennes, que ce soit l'emploi, les salaires, le pouvoir d'achat, etc. C'est quand même les préoccupations quotidiennes des salariés, des couches populaires d'Angers, quoi.
Dans un article du Courrier de l'Ouest, vous admettez que la course au fauteuil de maire est perdue d'avance. C'est quoi votre objectif en vous présentant ?
Alors, effectivement, vous avez raison, je suis quand même pas complètement mégalo. Je sais qu'avec 2 ou 3% d'intention de vote, je serai pas élu maire, d'autant que les élections ne sont pas réellement proportionnelles, puisque le mode de scrutin fait que j'ai peut-être une chance d'être élu conseiller municipal, mais pas forcément d'être élu maire, ça c'est sûr. Maintenant, nous, ce qu'on défend aussi dans ces élections-là, donc comme je disais, on porte un drapeau, mais aussi on pense réellement que le vrai changement, quand il y en aura un, il se passera pas forcément dans les urnes. Là, au square des élections, on sait que ce soit Monsieur Béat ou Monsieur Béchu, ils compteront leurs voix comme étant des voix pour le PS ou des voix pour l'UMP. Nous, on pense réellement que s'il y a des changements qui ont lieu dans le monde du travail, ce sera par des mouvements sociaux importants, par réellement des mouvements comme on a pu voir en 68 ou en 36, qui changent réellement le rapport de force entre les salariés et les exploiteurs, on va dire.
On va passer à vos propositions, Marie-Josée Falli. Alors, on a bien cherché votre programme et on ne l'a pas trouvé. Vous n'avez pas de programme local, en fait, à lutte ouvrière, simplement des lignes nationales. Pourquoi ?
Tout à fait. C'est un choix. Hein. C'est un choix. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tous les collègues, tous les Angevins du monde du travail qu'on a rencontrés, leurs préoccupations, c'est pas tant le tramway ou la patinoire, ou etc. Bien que, effectivement, ça fait partie des discussions. Mais leur première préoccupation, c'est quand même... est-ce que mon fils il va avoir du boulot? Est-ce que mon mari va être licencié? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances? C'est un peu toutes ces discussions-là. C'est quand même le problème des licenciements, le problème du pouvoir d'achat, le problème des salaires, etc. C'est ça. Hein. Alors effectivement, nous, on a décidé de faire une campagne sur ces vrais problèmes-là. Alors, ils sont locaux dans le sens où... Une bonne part des couches populaires ont réellement ces problèmes-là et franchement se moquent un peu quand même du trajet éventuel de la deuxième ligne tramway.
Alors justement, vous citiez les lignes directrices et nous sommes allés les soumettre aux Angevins avec cette première ligne directrice, donc interdire les licenciements.
Oula, à ce point-là, c'est un peu radical. Enfin, je pense qu'il y a des fois c'est justifié, des fois non, pour peut-être interdire certains licenciements sûrement.
Non, moi je suis pas pour. Bah si quelqu'un s'il y a une vraie faute, interdire un licenciement, c'est la personne qui a fait la faute et c'est stupide. Enfin, c'est mon avis ça après.
Interdire les licenciements, oui, mais il y aura toujours des licenciements qui seront justifiés et donc je ne pense pas que ceux-ci pourront être supprimés.
Que faire pour ces licenciements justifiés pour répondre au jeune homme qui nous a répondu ?
Alors, moi je pense, enfin, c'est pas que je veux me défiler, hein, mais quand on parle d'interdire les licenciements, on rajoute souvent après, d'ailleurs, dans les entreprises qui font des bénéfices. Moi je pense à Angers, à Thomson, à Technicolor, je pense aux ardoisières à Trélazé, qui sont réellement des licenciements économiques, hein, des licenciements qu'on dit économiques, puisque le seul objectif pour les dirigeants de ces entreprises-là, c'est de faire encore plus de bénéfices, non pas qu'ils sont déficitaires, mais de faire encore plus de fric, hein, pour les actionnaires et pour les patrons. Alors, les licenciements pour faute, oui, effectivement, c'est sans doute une toute petite partie des licenciements. Je pense que la plupart du temps, ce qui est reproché aux salariés, c'est de pas être assez rentable, voilà. Bon.
Donc, c'est pas interdire tous les licenciements, c'est interdire les licenciements.
On peut pas répondre. Moi, quand on défend ce mot d'ordre-là, on répond pas. on s'attaque pas au licenciement de l'apprenti boulanger ou du boulanger qui licencie son employé parce qu'il fait faillite. C'est pas ça, hein. C'est PSA, c'est Thomson, c'est etc. Alors bon, on peut pas tout réduire au seul licenciement de quelqu'un qui aurait volé dans la caisse.
Pierre-Antoine.
Et comment la mairie peut agir pour interdire les licenciements dans des entreprises privées ?
Alors justement, c'est là où on dit que la mairie, d'abord ce qu'elle peut faire, c'est ne pas subventionner ces grosses entreprises là, hein, parce que la seule chose qu'elle a pu faire, par exemple à Thomson, la mairie, c'est d'acheter le terrain. Bon, en disant recréer des emplois. En réalité, bon, les emplois, on les a toujours pas vus. Ce qu'elle peut faire, la mairie, c'est le dénoncer, les licenciements, dénoncer le fait que ces entreprises-là fassent des profits et mettent sur le carreau non seulement les salariés, mais aussi autour tout le tissu économique des artisans, des boulangers, des charcutiers, enfin tous les commerçants qui font.
Mais dénoncer, est-ce que ça suffira, Marie-Josée Salégon?
Je pense que déjà dénoncer, dire à son parti qui est au pouvoir, hein, que quand je parle du Parti socialiste, arrêter de subventionner ces entreprises à perte, arrêter de faire des cadeaux, puisque ce qu'on a besoin nous, c'est d'emplois dans les collectivités locales où on pourrait reclasser ces emplois-là dans des emplois sur la culture, sur l'éducation, sur la santé, hein, ce serait possible.
La deuxième ligne directrice de Lutte Ouvrière, c'est augmenter les salaires.
Je dirais pour. Après, bon, même s'il y a des gens qui font pas très très bien leur boulot, mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même une bonne chose.
Bah, ça dépend sous quelles conditions. Après, une hausse, oui, vu comme ça, évidemment. Mais après, ça dépend ce qu'il y a derrière, quoi. Bah, s'il y a des hausses des charges, hausses des impôts, bah non, dans ce cas-là, non. Autant qu'on garde nos salaires comme ils sont actuellement, quoi.
C'est pas possible. Enfin, aujourd'hui, déjà, quand on regarde combien on pour avoir un SMIC, il faut donner le double, voire un peu plus. C'est joli à dire, mais c'est pas possible. Il faudrait baisser les taxes avant au niveau des sociétés. Et oui, non, aujourd'hui, on pourrait pas.
Alors, justement, qu'est-ce que vous répondez à ce jeune homme qui vous explique que ça n'est pas possible ?
Alors, ce que je réponds, alors là, il y a plein de réflexions intéressantes, hein, puisque je reprendrai déjà augmenter les salaires, mais si tout augmente autour, ça sert à rien, oui. Alors, c'est une de nos revendications, hein, quand on dit augmenter les salaires, c'est aussi quand on parle de l'échelle mobile des salaires, c'est indexer les salaires sur les prix, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les prix augmentent, les salaires augmentent en proportion, ce qui permettrait de garantir un pouvoir d'achat. Alors, c'est pas possible. Il y a un certain nombre de cotisations sociales qui sont payées par les patrons, ce qui est logique, hein, ça permet de financer un certain nombre entre autres la Sécu, toutes les cotisations sociales, le chômage, etc. Moi, je pense qu'un certain nombre d'entreprises, de grosses entreprises qui font d'ailleurs énormément de bénéfices et qui sont exonérées de ces cotisations-là d'ailleurs. Plus elles sont grosses, plus elles touchent d'aide. Et moi, je pense qu'un certain nombre de patrons qui pleurent la bouche pleine. Alors effectivement, l'artisan du coin qui a du mal à financer son salarié, oui, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué d'embaucher des jeunes et de pas percevoir d'aide et d'être étranglé par les plus gros au-dessus qui, eux, touchent des aides. C'est la réalité du système capitaliste. Hein. C'est les petits qui sont mangés par les gros.
Donc ici encore, vous nuancez, c'est pas augmenter tous les salaires.
Alors, augmenter les salaires les plus bas. Moi, je travaille à l'hôpital. Il y a un tiers de mes collègues qui gagnent le SMIC. On peut pas vivre actuellement avec 1100 euros par mois. C'est pas vrai. Ou alors, on survit. On économise surtout. Moi, je pense que tous les salaires des ouvriers, des classes laborieuses qui n'ont que leur salaire pour vivre, toutes les retraites, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes actuellement, compte tenu des grossesses, etc., qui touchent 700 ou 800 euros par mois pour vivre. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de laisser ça. Effectivement, faut prendre sur les profits accumulés par ces boîtes-là, par les grosses boîtes, pour augmenter les salaires.
Mais lorsque François Mitterrand a augmenté les salaires en 1981, les Français ont commencé à acheter étrangers et ça a dégradé la balance commerciale, en fait. Donc, vous pensez pas que ça peut faire le même effet aujourd'hui ?
Je pense surtout que les patrons, ils n'ont pas de frontières. Quand ils parlent, quand ils disent la voiture est française, il y a une part qui est fabriquée au Maroc, l'autre part en Allemagne, etc. Donc je pense que ça, c'est des faux problèmes. On n'est pas concurrents entre nous. Toute la population en Europe a besoin de vivre, a besoin de travailler. De l'argent, effectivement, il y en a. C'est une façon de répartir les richesses différemment. Moi, je pense on pense, nous, qu'il faut réellement prendre sur les profits pour financer ça. Alors, moi, je suis incapable d'acheter des vêtements français, par exemple, qui sont hors de prix. C'est-à-dire, tout le monde est incapable d'acheter un pantalon à 100 €. C'est pas possible quand on en gagne 1 000. C'est donc, bon, voilà, c'est. Mais les patrons, en attendant, ils se servent largement.
Marie-Josée Faligan, que ferez-vous si vous êtes élue de votre indemnité de maire, qui est à peu près de 5 500 € à Angers ?
Alors, si j'étais élue, je la reverserais à mon parti. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Je garderais ce dont j'ai besoin pour vivre, c'est-à-dire l'équivalent de mon salaire, si j'étais. Et puis le reste, je le reverserais, bien sûr.
Le troisième leitmotiv de Lutte ouvrière, c'est cesser les subventions aux entreprises.
Non, je pense qu'il faut aider les entreprises et c'est ce qui fait vivre, par exemple, Angers et tout. Donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là.
Bah, ça peut permettre de développer des choses, augmenter les salaires. Non, je pense qu'il faut pas les. Enfin, ça dépend pour quelles entreprises, mais les petites entreprises, non.
Ah non, ça faudrait les laisser. Je pense que ça aide aussi quand même pas mal les entreprises pour se développer et pour embaucher et pour les stagiaires, pour tout ça.
À mon avis, c'est inutile parce que je pense qu'elle s'en sortirait pas sans.
Elle ne s'en sortirait pas sans, Marie-Josée Faligan.
Je pense que dans tous les jeunes qui répondent aux questions là, c'est effectivement ils ont dans la tête les aides aux petites entreprises. Hein, c'est souvent ça, aux artisans. On le sent en arrière-plan. Moi, je parle des cadeaux faits massivement au patron, les 35 milliards d'exonération de cotisations, les cotisations familiales dont il était question qu'elles soient supprimées, ça c'est des cadeaux qui sont absolument scandaleux, d'autant que ces cadeaux-là, pour les faire, les économies sont faites sur les services publics, sont faites sur l'argent public, c'est-à-dire c'est l'argent de l'éducation, l'argent de la santé, les collectivités locales qui vont voir leur budget diminuer, on l'a vu dans la presse, ça veut dire concrètement moins de crèches, moins d'aides périscolaires, moins d'emplois dans les municipalités, et ça c'est concrètement ce que ça veut dire augmenter les aides.
Je vous lis un extrait du site internet de Lutte ouvrière. Dans le chapitre « Pourquoi faut-il un parti révolutionnaire ?» La société capitaliste peut être renversée pour laisser place à une organisation nouvelle et supérieure de la société, le communisme. Cette transformation profonde ne pourra se faire qu'au travers d'une révolution de l'ampleur de la révolution russe. Ça ne s'est pas un peu mal fini, cette histoire de révolution russe, Marie-Josée Faligan ?
Oui, oui, si vous faites allusion au stalinisme, oui, c'est effectivement des idées qui ont été un peu, qui ont été dévoyées par le stalinisme. Nous, on fait partie des militants qui pensons que le communisme est toujours d'actualité, plus que jamais. D'ailleurs, quand il suffit de relire les idées de Marx pour voir qu'elles sont plus que jamais d'actualité. Moi, je pense que quand on est jeune, avoir comme seul objectif d'un système capitaliste où il faut marcher sur son voisin pour y arriver, c'est pas très, ça donne pas envie. Moi, je pense qu'on peut vivre, actuellement, compte tenu des richesses qu'on produit, de façon plus rationnelle, en partageant le travail, en partageant les richesses et en essayant que la planète tout entière puisse vivre de son travail. Et ça, c'est une organisation communiste de la société.
Mais connaît un pays où le communisme a été mis en place sans dictature par la suite ?
On connaît pas non plus un pays où le capitalisme y permet de vivre décemment sans laisser la moitié des sans-abri dans la rue l'hiver, sans que dans Haïti on vive encore sous les tentes, etc. Donc le capitalisme n'a pas fait plus ses preuves d'un système qui serait égalitaire et satisfaisant pour tout le monde. Donc non, les idées communistes, oui, moi je les défends bec et ongles.
Rémi.
D'accord. Mais et sur le partage, oui. Et c'est quoi, Marie-Josée Faligan, la différence entre la démagogie et l'utopie dans ce cas-là ?
C'est pas de la démagogie, hein. Moi, je pense que c'est utopique là actuellement. On a une, dans la société dans laquelle on vit actuellement, c'est complètement utopique de vouloir faire une place à des jeunes, de vouloir élever ses enfants dans une société où on a envie de tout bétonner pour faire du fric. C'est ça qui est utopique. Moi, je pense que les idées qu'ont mené un certain nombre de Russes à faire la révolution, etc., et à vouloir changer de système, à vouloir se dire que de contrôler à la base ce qui se passe, de décider soi-même de ce qu'on produit, etc., de l'utilité de ce qu'on produit. C'est d'actualité. Seulement, ça peut pas exister à l'échelle d'un seul pays. Ça a été une des impasses d'ailleurs de la révolution russe. Je dis pas que en URSS c'était le communisme, c'était le stalinisme, c'était pas le communisme. Au sens où Lénine et Marx l'ont, enfin où Marx et Lénine l'ont et Trotsky bien sûr l'ont défendu, et d'ailleurs Trotsky était dans l'opposition pour défendre ces idées-là.
On va marquer une petite pause musicale, Marie-Josée Falligan avec une artiste angevine. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, je vous laisse deviner.
Reconnu Marie-Josée Falligan?
Non, je suis assez peu cultivée sur le domaine musical, mais j'aime beaucoup sa voix.
Titi Zaro, elle danse.
Ok, je vous remercie, je me renseignerai.
Je vous en prie, Pierre-Antoine.
Marie-Josée Falligan, concrètement, si vous êtes élue, qu'est-ce que vous comptez faire en faveur des jeunes, puisque bon, vous défendez le camp des travailleurs? Après tout, ce n'est peut-être pas votre électorat principal.
Les jeunes sont tous des futurs travailleurs. Et je pense que déjà une des premières choses, ce serait qu'ils aient du boulot, qu'ils aient un logement, qu'ils aient de quoi vivre. C'est déjà un programme important. Le boulot, le travail, c'est quand même, c'est quand même la première chose, hein, quand on commence à envisager l'avenir, envisager de s'installer quelque part, c'est d'abord d'avoir du boulot. Donc pour ça, il faut créer des emplois.
Et concrètement, vous mettriez en place une démarche de création d'emplois publics?
C'est-à-dire que oui, évidemment. Alors, je pense, juste pour dire, hein, Angers, c'est pas une bulle, donc effectivement, on est complètement dépendant du reste de ce qui se passe en France. Mais oui, des emplois publics, oui. Pour parler d'un domaine que je connais bien, qui est l'hôpital, c'est effectivement un domaine où il manque cruellement d'emplois à tous les niveaux, d'ailleurs, hein, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des soignants, que ce soit au niveau des administratifs ou des ouvriers. Et je dirais la même chose dans les services municipaux ou dans l'éducation, où par exemple, il y a un besoin important d'auxiliaires de vie scolaire pour prendre en charge les enfants, etc., pour éviter l'échec scolaire.
Mais avec quel argent ?
Alors justement, c'est ça, c'est des choix budgétaires. C'est des choix budgétaires et quand on dit, nous, que l'argent qui est donné à perte aux entreprises doit être utilisé à créer des emplois, c'est cet argent-là. C'est-à-dire que là, les 35 milliards qui sont prévus d'être donnés au niveau national en exonération de cotisations, nous, on pense qu'ils seraient, ou au pacte, enfin, pour le fameux pacte de responsabilité aussi, etc., où il y aura des exonérations, on pense que l'État ferait mieux de les créer directement parce qu'il n'y a aucune garantie que les employeurs le fassent.
Rémi,
vous vous intéressez à la vie culturelle angevine ?
Oui, bien sûr.
C'est un truc de bourgeois, la culture ?
Non, pas du tout. Je pense que, justement, pour parler de la culture, moi, je suis pour la création de toutes les médiathèques, bibliothèques, etc. Seulement, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que pour transmettre la culture, ça se transmet. Et c'est aussi une question d'éducation. Et pour éduquer, il faut des hommes et des femmes qui permettent justement de donner un peu aux enfants des couches moins favorisées, hein, qui ont moins l'occasion d'aller au théâtre, au cinéma, etc., qui leur donnent les clés pour comprendre un tableau, pour comprendre une musique, etc. Et ça, il faut tout, avant tout des hommes et des femmes pour le faire.
Alors concrètement, c'est la même chose.
Alors, c'est la même chose, oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de culture sans... Ou alors, c'est la culture élitiste. Hein. Ça veut dire que, bon, les angevins, entre guillemets, les angevins qui ont les moyens de se payer le théâtre et puis qui ont les moyens de se cultiver pour apprendre ou qu'on fait des études, ils peuvent accéder. Et puis, toute une partie de la population, dont des fois je fais partie, parce que je n'ose pas forcément aller à un concert de musique classique, parce que j'ai peur de pas y comprendre, etc. Donc il faut pouvoir populariser, avoir des ateliers pour comprendre et tout ça, et ça se fait dès le plus jeune âge.
Ça existe déjà,
en général. Oui, ça existe déjà, mais ça, bien sûr. Mais je pense qu'il faut le développer. C'est avant tout ça, la culture.
Et en termes de manifestations culturelles, est-ce que vous garderiez Tempo Rive, les Accroche-Cœurs?
Oh, je trouve ça bien. Et ça, je pense qu'il y a plein de choses qui sont bien. J'ai pas de critique particulièrement à faire sur ce qu'a été fait jusqu'ici. Hein. Je suis pas dans l'opposition. Pour être dans l'opposition, je pense qu'il y a des choses qui sont bien. Simplement, il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Enfin, du moins, que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Je pense que, par exemple, un des aspects, ce qui a été fait à l'hôpital développer la musique classique, hein, dans les services, je trouve ça génial, je trouve ça bien. C'est d'autant mieux quand les musiciens peuvent discuter, expliquer ce qu'ils font, etc. C'est une façon de populariser d'expliquer leur boulot et de rendre facile l'écoute après d'une musique classique, par exemple.
Et quel sort vous réservez aux associations angevines si jamais vous êtes élu maire ?
Ben, je pense que sans les associations. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionnerait. Hein. Il y a tout un tas d'hommes et de femmes qui passent leur temps à faire fonctionner le club de foot, la patinoire, toutes les associations de quartier. Et ça, c'est une richesse énorme qu'il faut entretenir et à qui il faut donner la parole pour voir de quoi réellement elles auraient besoin. Oui.
Vous réserveriez le même budget, deuxième poste budgétaire actuellement ?
Oui, bah, c'est une très bonne chose, oui. Alors, oui. Ce serait encore mieux si dans les associations, il pouvait y avoir des salariés qui gagnent leur vie, ouais. Parce que souvent, c'est quand même beaucoup de bénévolat. Il ne faut pas que le bénévolat se substitue à l'État.
On aura bien compris l'emploi, les salaires et l'interdiction
voilà,
des licenciements.
Voilà, vous avez tout compris.
On va passer un petit quiz, Marie-Josée Falligan. Quel est votre bar favori à Angers ?
Le bar de la Marine.
Il est où ce bar ?
Il est quai des Carmes.
Combien de fois par semaine est-ce que vous prenez le tramway ?
5-6 fois.
Votre quartier préféré ?
Oh, j'aime tous les quartiers. Hein. J'habite le quartier de la gare, je l'aime bien parce que je le connais, mais j'ai habité beaucoup de quartiers dans Angers. J'aime tous les quartiers.
Votre groupe angevin préféré ?
Ça, j'aime bien Titi Robin, mais je sais qu'il n'est pas tout à fait angevin, mais je vais dire quand même Titi Robin.
La dernière sortie culturelle que vous ayez faite ?
Je ne me souviens pas.
Question bonus, vous espérez secrètement quel score au premier tour ?
J'ai pas réfléchi à la question. Pour être élu, il faudrait avoir 7 ou 8% au premier tour s'il y avait qu'un seul tour. J'espère que le maximum de candidatures se porteront sur notre liste.
Question bonus plus, si vous n'êtes pas au second tour, vous appellerez à voter?
Ça, on vous dira ça le soir du premier tour. Hein. On n'a pas pris de décision à l'avance, ça dépendra un peu du paysage. On vous dira ça le soir du premier tour. On n'a pas de consigne de vote pour l'instant, sinon on se serait présenté directement sur les autres listes au premier tour.
On attendra donc le 23 mars voilà. Ce soir. Merci Marie-Josée Falligan d'avoir été notre invitée pour cette deuxième semaine consacrée aux élections municipales.
Je vous remercie à vous.
Et bon courage pour cette campagne.
Merci.
Demain, dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, nous recevrons Hubert Lardeux du Parti ouvrier indépendant qui mène la liste contre les politiques d'austérité pour la République et la démocratie. N'hésitez pas à lui poser des questions sur notre fil @campusangers tout de suite. On écoute The Soul Rebels Brass Band avec, attention, un titre en anglais, 504.
Yo, yo, it's about that time that we dedicate one right here to the 504. I'm talking about East Bank, West Bank, Uptown, Downtown, everything under the 504, you know what I'm saying?
We talking about New Orleans East, we talking about LG,
we talking about anything 504. When you pick up that cell phone and it's 504 on your phone, this joint right here for you. Check it out.
Come on.
It's groovy.
Oh, it's groovy.
Come on, just groove with me.
Hey, ball,
just groove with me. Come on, just groove with me.
See, baby.
Come on, just groove with me.
You already know.
Come on, just groove with me. Baby, groove, baby, groove. Baby, groove.
Come on. Oh, yeah.
Just groove with me.
Come on.
Just
Comme tous les mardis de l'année, dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on retrouve notre chroniqueur politique. J'ai nommé Pierre-Antoine, qui démêle ce que l'on appelle désormais l'affaire Buisson. Depuis quelques jours, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est mêlé, bien malgré lui, à une affaire d'enregistrement de son ancien conseiller Patrick Buisson. Sur les bandes qui ont fuité dans la presse, on peut entendre de nombreux proches de l'ancien chef de l'État lors d'entretiens privés, une sorte de Sarkolix.
Sarkolix pour Mediapart, Buissongate pour L'Express, Buissonlix pour Eva Jolie, pourquoi pas le Sarkogate pour Radio Campus Angers. Tous ces surnoms ne qualifient qu'un seul et même événement, l'espionnage de Nicolas Sarkozy du temps où il avait sa garde-robe à l'Élysée par Patrick Buisson. Oui, oui, Patrick Buisson, cet ancien proche conseiller du président. Oui, Patrick Buisson, cet ancien directeur de Minute, journal bien connu de l'extrême droite, celui qui est à l'origine de la dérive droitière de l'UMP, je sens parfois sur les plates-bandes du Front National, celui encore qui aurait conseillé à Nicolas Sarkozy la création du poste de ministre de l'immigration et de l'identité nationale, celui enfin qui lui aurait soufflé à l'oreille lors d'une interview pour le très à droite Valeurs Actuelles, l'organisation d'un référendum sur l'indemnisation des chômeurs. Le gentilhomme Buisson, donc, aujourd'hui patron de la chaîne Histoire, aurait pu ne pas revenir sur la scène publique qu'il évite depuis la défaite de son poulain en 2012, c'était sans compter sur le pur Player, Atlantico et le Canard Enchaîné qui ont publié mercredi dernier des extraits des conversations entre Patrick Buisson et le couple Sarkozy, des ministres et d'autres conseillers.
Qui sont les principaux visés ?
Tout d'abord, Michèle Alliot-Marie, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, était à l'époque contestée pour avoir passé des vacances en Tunisie payées par Ben Ali. J'ai accepté qu'elle me fasse une lettre de démission, mais enfin, personne n'est dupe, déclare Nicolas Sarkozy. Sur notre bande, voici Buisson qui demande le départ de Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Il est inhibé sur les questions sécuritaires, c'est toujours sympa, hein. Un autre enregistrement pourrait bien détériorer la relation amicale entre UMP et UDI. Remplacer Fillon par Borloo, c'est grotesque. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait remplacer Fillon aujourd'hui, c'est Juppé. Une phrase de Nicolas Sarkozy.
Et comment ont réagi les responsables politiques ?
Nicolas et Carla ont décidé de porter plainte contre Patrick Buisson, qui a lui également décidé de porter plainte contre X pour recel de vol. L'ancien conseiller se serait fait voler les enregistrements diffusés à la presse, l'arroseur arrosé, en somme. Hein. Les ténors de l'UMP ont fait front commun pour dénoncer un acharnement derrière lequel, pour certains, se trouverait la gauche. Brice Hortefeux explique que plus le retour de Sarkozy se dessine, plus il est attaqué et de continuer. Est-ce un hasard, 15 jours d'un scrutin qui s'annonce très difficile pour la majorité, si l'on envoie autant de boules puantes, toutes exclusivement dans la même direction ? Un constat que partagent certains militants UMP qui se sont exprimés au micro de France Info.
Je remarque que chaque fois que M. Sarkozy apparaît quelque part, il y a une affaire qui sort. Au niveau journalistique, ils ont dans leur petit tiroir des petites réserves de cartouches.
Le PS a peur de l'avancée de l'UMP, les municipales sont devant eux. C'est des petits coups bas comme ça qu'on lance par-ci par-là.
C'est voulu pour salir la droite. Ça vient de la gauche pour moi. C'est des coups foirés, c'est des coups qui font mal et qui sont affreusement sales, voilà.
Ces affaires vont surtout être bon pour le FN. Vous voyez, moi je crains plus que c'est une tactique pour qu'il y ait des triangulaires, pour que justement il n'y ait pas une vague bleue.
Pour le président de l'UMP, Jean-François Copé, il ne faut pas laisser le débat public être détourné de la question des municipales. Celui qui est accusé par l'hebdomadaire Le Point d'avoir favorisé des proches lors de l'organisation de meetings en 2012 souhaite voir les Français sanctionner la politique du gouvernement. Henri Guénaud, autre proche de Nicolas Sarkozy, dénonce une sorte de viol, rien que cela, et demande des sanctions. Peut-on laisser totalement impuni ce genre de comportement ? Il ne faut pas que cette affaire devienne un exemple à suivre pour d'autres, ajoute-t-il lors d'un entretien avec France Info. Un climat politique que dénonce aussi l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sur France 2.
Quand vous commencez à écouter quelqu'un à son insu, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation de confiance, ça veut dire que vous préparez des mauvais coups, ça veut dire mille choses. C'est quelque chose d'inacceptable sur le plan humain. Mais que ce soit dans la vie privée, dans la vie personnelle. Alors, a fortiori, à l'Élysée, le président de la République, quand on est supposé l'un de ses premiers conseillers, c'est complètement désespérant de la nature humaine. Franchement, c'est quelque chose qui est profondément choquant, que je ne comprends pas.
Le Parti Socialiste, de son côté, se frotte les mains. Un mauvais coup pour la droite est toujours à prendre, surtout quand l'exécutif continue toujours à souffrir d'un manque criant de popularité. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, se dit étonné. C'est celui qui était écouté par le président de la République, qui écoutait le président. Si les choses sont vraies, c'est quand même quelque chose de terrible sur les mœurs qui régnaient dans ce camp à cette période. Pour Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, c'est quand même une affaire exceptionnellement grave. On parle d'écoutes qui ont été réalisées sur les plus hautes personnalités de l'État. De son côté, Harlem Désir, sur France Info, dénonce le climat régnant à l'UMP et à l'Élysée sous l'ancienne présidence.
Ce que révèle cette affaire Buisson, comme une autre affaire qui concerne Monsieur Copé depuis quelques semaines, c'est quand même cette espèce de justement de d'univers un peu glauque, un peu sordide qui existait et qui a continué à exister autour de Nicolas Sarkozy.
Tout ne s'annonce pas rose pour Sarkozy, impliqué dans une autre affaire d'écoute depuis quelques jours, mais que ça lui serve de leçon. Il saura maintenant que si les murs ont des oreilles, les buissons ont des micros.
Ça, c'était joli. Merci, Pierre-Antoine. Avant de vous quitter, voici l'agenda de votre soirée angevine. Notez l'éternel Bœuf Blues du mardi soir au Téroc à 21h et une soirée cinédoc au cinéma Les 400 coups à 20h15 autour du film Démocratie 06 de Michel Toesca. La projection sera suivie d'une rencontre avec Michael Poirou d'Attaque 49 et Hugues Vollerin, maire de Saint-Jean-de-la-Croix. Et puis, petit concert surprise qu'on sait déjà ce que c'est au Brin Folk à 21h, c'est Mustang qui sera en live. Il est l'heure de remettre les scaphandriers au placard. Aux manettes ce soir, c'était Antoine et en studio avec moi, Pierre-Antoine. Tout de suite à 20h, vous retrouvez la programmation musicale de Radio Campus Angers, avec qui je ne vais pas faire de passage d'antenne par contre. Dès 20h, voilà l'éternel Johnny Clash Show présenté par Johnny Clash. Salut Johnny Clash.
Salut les amis.
C'est une joie de te rencontrer au micro. De quoi vas-tu nous causer ce soir?
Eh bah dès 21h, parce que c'est dès 21h, je causerai d'alternative country. Ça vous parle?
Pas du tout.
Eh bah c'est super.
Qu'est-ce que c'est?
Vous écouterez.
21h sur le 103FM, le Johnny Clash Show. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter la bulle sonore. Radio Campus Angers et Face B font la part belle au documentaire sonore et vous proposent quelques ovnis. Une série intitulée Accident de parcours à retrouver sur notre site internet, le www.radiocampusangers.com. Voici un extrait signé Babette Dargaud et intitulé De si douces dérives, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve demain, n'oubliez pas, mercredi à 19h. Très bonne soirée sur campus. Allez, bisous.
Ah, mon steak. Bon, alors, 2, 4...
Ella Fitzgerald. Grand moulin de Pantin.
Ella Fitzgerald, Grand moulin de Pantin.
Alors j'avais un rendez-vous professionnel, donc je m'étais bien habillée. Surtout j'étais très contente parce que j'avais des jolies ballerines noires vernies. Je prends le métro, j'arrive sur le quai, on attendait la rame, il y avait un type qui était pas très loin de moi. La rame de métro arrive, on s'approche des portes, les portes s'ouvrent, et là, une bande de jeunes sort précipitamment et nous bouscule. Me bouscule moi, me bouscule le type qui était à côté de moi. Il marche sur ma chaussure, je suis déportée, je pars sur le côté, je perds ma chaussure, lui perd l'équilibre, essaye de se rattraper et donne un coup de pied dans ma chaussure qui passe entre la rame de métro et le quai. Elle se retrouve sur les rails. Les jeunes partent, le type monte dans le métro. Et moi, je me retrouve sur le quai avec une seule chaussure. J'y crois pas. La scène se passe au ralenti. Donc, je sens que je perds ma chaussure. Je la regarde parce que je veux la récupérer. Et là, je vois le pied du type qui part et qui shoote dedans. Et là, je lâche une insulte. Le mec, je le traite de connard. Il me regarde, il fait « Bah et alors ?» Je sais quoi, ma chaussure, elle a disparu. Voilà, tu perds une chaussure et d'un seul coup, ben, tu peux pas aller à ton rendez-vous professionnel, tu peux à peine rentrer chez toi. Ben, j'étais perdue, c'était le désarroi le plus total, quoi. Et puis, ben, j'avais honte, surtout, de remonter tout le quai du métro et de marcher à moitié pieds nus. Et les gens me regardaient, ils se disaient « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle marche avec une seule chaussure ?» T'as la fin de l'histoire.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.